Ça s'appelle Au détour d'une rencontre. C'est une émission qui vous propose de partir à la rencontre d'une personne, d'un projet, d'un métier, d'un engagement, d'une réalité de vie. C'est une émission qui parle des autres, de soi, qui questionne ce que nous sommes, ce qui est, ce que nous faisons, dans quel but. L'émission Au détour d'une rencontre aujourd'hui, c'est une rencontre avec une association, l'association Ultime Liberté. C'est la rencontre avec quatre personnes engagées dans cette association qui militent pour la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie. La rencontre d'aujourd'hui va se dérouler dans les studios de Radio U à Brest qui nous accueillent et nous met à disposition leurs locaux. Donc on va faire un petit tour de micro pour savoir qui sont ces quatre personnes qu'on va rencontrer et qui vont nous présenter l'association Ultime Liberté.
Eh bien, je m'appelle André. Je suis membre de l'association Ultime Liberté depuis 2021. Je suis membre d'Ultime Liberté par conviction, évidemment. Je milite pour une fin de vie libre, en douceur et digne, pour tout un chacun, sans nécessairement avoir recours à l'autorité médicale.
Je m'appelle Eric, retraité de 73 ans. Mon rapport à la mort a évolué au fil des années. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'allais voir les parents qui étaient justement suivis. Il y avait le médecin de famille, etc. Ensuite, j'ai eu des expériences avec des gens qui étaient en EHPAD. Ça m'a un peu surpris. Et puis, j'ai aussi connu les soins palliatifs avec des amis qui étaient en soins palliatifs. Et ça m'a fait vraiment réfléchir à ma fin de vie à moi, et comment je voulais la faire. Concernant Ultime Liberté, je l'ai connue à travers les médias, et les objectifs de l'association me plaisaient bien. C'est pourquoi je suis adhérent à Ultime Liberté, et je suis un membre actif. Voilà.
Bonjour, donc moi je m'appelle Daniel, je suis retraité aussi. Moi, j'ai eu la rencontre avec la mort à 17 ans, ça, avec des tantes qui étaient en problème de vieillesse, le cerveau qui s'en allait en vrille. Enfin. Et là, ça m'a fait réfléchir à ma propre mortalité à 17 ans, c'est quelque chose qui... Voilà. Et depuis ce moment-là, l'idée que je puisse choisir ma mort, c'est quelque chose qui m'a toujours porté, quoi. Et au détour des médias, j'ai connu Ultime Liberté. Et en lisant les objectifs qui sont l'autodétermination, donc le droit de disposer de sa vie, de sa mort, de son corps, quand on veut, comme on veut, quand on veut. Là, je me suis dit, ouais, c'est ça qu'il me faut comme association. Et du coup, militer dedans, c'était une évidence, un peu comme pour l'IVG. L'IVV, c'est une évidence, quoi. Voilà, le droit de choisir.
Alors, moi, c'est Bruno. Je suis en retraite depuis 4 ans maintenant, 5 ans, quelque chose comme ça. Je suis adhérent de Ultime Liberté depuis avril 2021. Dans ma carrière professionnelle, enfin, comme j'étais soignant, j'ai pu voir des gens victimes de médecins, de l'orgueil des médecins, et que ça m'a fait beaucoup réfléchir aussi. Et donc, j'ai décidé de rejoindre Ultime Liberté, je suis aussi à la DMD. Association pour le droit de mourir dans la dignité.
Quel est l'objet de cette association Ultime Liberté ?
Donc c'est une association qui a pour objectif de modifier le statut juridique des personnes. Donc plutôt que de prendre le côté médical comme la DMD et le choix, on attaque le problème par la notion juridique en demandant l'autodétermination des personnes. C'est-à-dire faire évoluer ce statut, donc reconnaître le choix de disposer justement de sa vie, de son corps, et donc de sa personne et de sa mort. Ce qui fait que ça offre le choix aux gens du suicide assisté, de l'euthanasie volontaire, des soins palliatifs, de la cryonisation, et on peut imaginer toutes les solutions futures dans l'espace ou autres qu'il pourrait y avoir. Donc on se met en dehors de la notion de médical ou de... personnes ayant des maladies en fin de vie, voilà. Et on n'oppose pas les soins palliatifs à l'interruption volontaire de vie. Il n'y a pas d'opposition en soi entre les deux. On peut très bien vouloir des soins palliatifs et tout à la fin, plutôt qu'une sédation profonde, vouloir une euthanasie volontaire ou un suicide assisté. Et puis aussi, on fait, à la demande de nos adhérents, on les rencontre physiquement, on se déplace pour les rencontrer et on essaye de mettre en œuvre ce qu'ils souhaitent dans les moyens légaux qui existent sur toute l'Europe. C'est, en France, on a une vraie discrimination sociale vis-à-vis de la mort, puisque en fonction, les gens qui ont les moyens, ils peuvent aller en Suisse, ceux qui ne l'ont pas, ils ne peuvent pas. On a le même cas que pour l'IVG, où on a à peu près les mêmes détracteurs sur les argumentations, et le même problème financier, en fait, qui se pose à l'heure actuelle. Je fais la faute au courant d'air, au creux, au côte, au chien d'hiver. Je viens
manger. Est-ce qu'il y a d'autres objets portés par l'association
Essayer d'en parler dans la presse, quoi, en proposant des articles, ça on essaye de faire aussi, mais que les gens en parlent, parce qu'en général, la mort, ça fait partie du refoulé. Les gens n'aiment pas en parler entre eux.
Et donc, comment on fait ça pour poser cette question de la mort sur l'espace public Vous, comment vous portez cette mission-là à travers Ultime Liberté?
En ce moment, il y a quand même quelques articles, quelques tribunes dans la presse. Enfin, il y en a eu, il va de nouveau y en avoir, je pense. Et donc, c'est suivre la filière pour dire, expliquer nos positions sur la question, en argumentant le mieux possible, avec des faits et puis des lois. Parce que je pense qu'il y a une espèce d'instabilité, d'incohérence dans la loi entre les lois Kouchner, l'autonomie de la personne telle qu'elle est définie par la Cour européenne des droits de l'homme, et ce qui se passe actuellement en France.
Comme toute association militante, puisqu'on défend un point de vue et des propositions aussi, on a envie de les faire entendre, ce qui n'est pas évident, parce qu'on a un petit peu moins de visibilité que des grosses associations comme la DMD, qui a été citée tout à l'heure, par exemple. On réfléchit à prendre des contacts, à aller à la rencontre des gens, y compris des gens qui ne sont pas nos adhérents, donc au travers de réunions publiques, comme on l'a fait, pour informer, pour montrer qu'on existe, voilà, pour essayer d'entrer un peu dans la lumière, y compris, on en reparlera peut-être tout à l'heure, par exemple, il y a eu la Convention citoyenne sur la fin de vie. La DMD a été auditionnée par la Convention citoyenne, l'autre association, le choix, je crois qu'ils l'ont été aussi. Voilà. Et nous, on n'a pas été auditionnés. Nos propositions n'ont pas pu être portées devant les membres de citoyens et citoyennes de cette assemblée.
Et pourquoi vous n'avez pas été auditionnés
Je pense que la frontière, elle est entre le pas la mise sous tutelle, mais la mise sous contrôle de l'autorité médicale ou pas, pour ce qui concerne la fin de vie. Et sur les trois associations qu'on vient de citer, donc le choix, la DMD et Ultime Liberté est la seule qui souhaite s'affranchir de l'autorité médicale et de la décision dernière sous le contrôle de l'autorité médicale.
Est-ce que vous pouvez nous parler de cette convention citoyenne ?
C'est une initiative du président de la République, initialement, comme il l'avait fait sur le climat. Cette convention a réuni 185 ou 184 à la fin, je crois, citoyennes et citoyens, qui se sont réunis, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais 9 sessions de 3 jours. Entre décembre 2022 et avril 2023. Ce qui a correspondu donc à 27 jours de débat, d'audition. Voilà, où ils ont reçu, ils ont auditionné divers experts. Donc, beaucoup dans le monde médical et beaucoup d'experts dans le monde des soins palliatifs. À l'issue de ces débats, donc, eh bien, les citoyens ont délibéré et ont produit un rapport de synthèse. Puis un rapport un peu plus complet sur lequel donc le gouvernement doit s'appuyer pour produire une loi, une nouvelle loi sur la fin de vie.
La Donc, dernière qui était prévue sur l'automne, c'est ça?
C'était prévu en principe à l'automne 2023.
Mm.
Là, on parle de 2024, mais on est dans un flou assez large, puisqu'il y a des annonces, des contre-annonces. Donc, on sait pas trop. On n'est pas très fixé sur ni sur la date, ni sur le contenu exact de ce qu'il y aura au final dans cette loi. J'ai fait quelques statistiques sur les votes qu'ils ont fait. Et donc, sur la question, par exemple, du cadre d'accompagnement de la fin de vie, la question qui leur a été posée, c'est « Le cadre d'accompagnement de la fin de vie répond-il aux différentes situations rencontrées ?» Il y a eu 167 votants, 140 ont répondu « Non ». 140, ça représente 83-84%. À la question « L'accès à l'aide active à mourir doit-il être ouvert ?» 125 sur 167 ont répondu oui, c'est-à-dire 75%.
Alors ce qui est intéressant, c'est quand même qu'il y a 22% de ces personnes qui étaient pour une aide active à mourir ouverte à tous. Ce qu'ils ont appelé le groupe des humanistes, en fait. Ça, c'est intéressant parce que ça a beaucoup évolué par rapport à il y a une dizaine d'années où la notion de suicide assisté était confondue avec le suicide qui était quelque chose de mal, quelque part. Donc, il y a une évolution des mentalités là, qui est constatée par ce biais-là. Et donc, qui est dans notre perspective associatif.
Par exemple, la question, la possibilité d'un accès à l'aide active à mourir sous la forme de suicide assisté devait être ouverte sans condition, et deux options, sans condition ou avec condition. C'est un petit peu ce qu'on réclame en fait, c'est la personne qui est autodéterminée et qui fait valoir son autodétermination, qui dit voilà, moi j'ai fait le tour de la question, je veux éteindre la lumière. Voilà. On peut dire ça comme ça, de façon un peu poétique. Donc sans condition. Eh bien, il y a quand même 17% des conventionnels qui ont répondu sans condition, ce qui est quand même pas mal, bien, alors qu'on n'a pas été entendu.
Mmh.
Peut-être qu'on aurait pu faire un peu de lobbying.
Ouais.
Voilà. Et il y a 71% qui ont répondu oui avec condition. Voilà. Et il y a 12% qui se sont abstenus. Et puis la question simplement, mais hors condition, l'accès à l'aide active à mourir sous la forme du suicide assisté devrait-il être ouvert? C'est quand même 73% des conventionnels, des citoyens qui ont voté oui.
Il faut dire quand même que dès le départ, avant la convention citoyenne, il y a un biais qui s'est révélé. Le président de la République a bien marqué les lignes rouges. C'était... l'euthanasie ou le suicide assisté ouvert que aux personnes qui sont en fin de vie, avec un pronostic vital engagé à moyen terme. Moyen terme voulait dire 6 mois. Quand on sait que les médicaux qui sont dans les soins palliatifs n'arrivent pas à le définir pour 3 mois à court terme. Ensuite, elle n'est pas ouverte à tous, elle est ouverte qu'à des gens qui sont dans un pronostic vital engagé.
Avec des souffrances physiques insupportables.
Alors on peut se poser la question quand même, vu la manière dont ça s'est sorti, la conscience citoyenne, est-ce que ce ne serait pas, puisque le principe ce serait plutôt de donner les soins palliatifs à des structures qui sont hors d'état, a priori, peut-être même au privé. Ça pose question quand même pour le milieu médical.
Nous ne sommes pas opposés aux soins palliatifs, on réclame même des structures de soins palliatifs dignes de ce nom, voilà, qui permettent d'accueillir toutes les personnes qui le souhaitent et qui en ont réellement besoin et qui veulent suivre un parcours de soins palliatifs. Ça nous semble constituer un progrès, de toute façon. Donc, il faut que ces unités existent, que ces structures existent. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça ne s'oppose pas du tout à ce qu'on réclame à côté comme nouveau droit de mourir dignement. Sur ce plan-là, on situe notre lutte, notre demande, sur le même plan que celui de l'IVG en son temps. C'est-à-dire qu'il s'agit d'obtenir un nouveau droit qui n'impose rien à l'ensemble de la communauté.
Je voulais faire un petit prologue sur l'évolution des soins, mais je vais être très rapide. Mais il faut savoir que les soins ont grandement évolué avec les deux guerres, notamment la première guerre où on a fait de la chirurgie d'urgence, la prophylaxie, la lutte contre le typhus, des choses comme ça. La deuxième guerre mondiale, on s'est plus occupé des personnes civiles qui étaient impactées par la guerre. Donc c'est naissance de l'ISERM à cette époque-là et la création du dispositif de sécurité sociale. Après, il y a des progrès assez importants en chirurgie, en prophylaxie, en pharmacopée. Et puis en 1954, il y a la création de la respiration artificielle qui a pu donner naissance d'ailleurs aux soins palliatifs. Autrement, il y a eu un impact sur la société aussi, puisque l'évolution du nombre d'habitants en France, en 1968, il y avait 50 millions d'habitants, et en 2018, on est à 65 millions, donc 30% en 50 ans à peu près. Je ne vais pas repartir sur les lois. Ce qu'on voit surtout dans les lois, c'est que à partir de la circulaire Larocque, les lois, législateur a été obligé de légiférer. Les structures n'étaient pas organisées, il n'y avait pas des soignants qui étaient formés pour ce type de soins. Il y avait très peu d'hôpitaux qui faisaient ce type de soins. Et toutes les lois qui suivent, donc la loi Kouchner, Leonetti, tout ça, oui, rappellent que on retrouve dans ces lois-là l'appel à ne pas faire d'acharnement thérapeutique.
En fait, ce qu'on voit, c'est que les évolutions de la médecine ont amené le législateur à légiférer pour remettre le patient au cœur du système, avec la loi Kouchner, et pour justement modérer en fait la technicité médicale qui amenait à garder des patients en vie alors qu'ils auraient pu mourir ou dû mourir, et donc en vie dans des conditions des fois inacceptables pour eux, pour les patients. Mm. L'objectif, ce n'était pas forcément pour le patient qui reste en vie, c'était qu'il reste en vie de façon vivable, si j'ose dire. Alors que pour le médecin, son objectif, c'était de le garder en vie, parce que c'est l'objectif d'un médecin, c'est de vous garder en vie. Mais il y avait donc une contradiction entre la technicité du médecin et ce que ça amenait à faire, et une vie acceptable pour un patient. Et donc toutes les législations qu'on voit depuis la loi Kouchner, c'est pour rendre de l'humanité quelque part dans les traitements, en fait. Les rendre acceptables par le patient et remettre le patient, lui redonner la main sur sa vie, en fait.
Les définitions toutes simples. Les soins palliatifs, ce sont des soins actifs et continus pour des personnes atteintes d'une maladie grave, évolutive ou terminale. L'objectif n'est pas de guérir, donc ce n'est pas un traitement, mais de prévenir et de soulager le patient de toute souffrance. Donc c'est des soins uniquement. Hein. Je viens, je danse aux choses en vain, mais m'avance, j'y vais, j'en viens, manger, dormir, souffler ma... Et la sédation profonde consiste à endormir profondément une personne pour soulager ou prévenir une souffrance réfractaire. Elle peut être mise en œuvre sur proposition médicale ou sur demande du patient. Voilà. Il faut savoir que la sédation profonde aussi, on peut la faire avec hydratation et sans hydratation. Donc le patient aussi peut avoir un choix. Sachant que si on ne fait pas d'hydratation, la mort vient plus vite, quoi. Au nom du nom des vents, j'y vais au son de l'avant. J'y vais, j'en viens, manger, dormir, c'est des matins. Rater, partir,
Tant que la personne peut répondre, les directives anticipées ne sont jamais lues. La personne de confiance n'est pas appelée non plus. Les directives anticipées ne servent que lorsqu'une personne est dans le coma et la personne de confiance la représente à ce moment-là et s'appuie sur les directives anticipées pour parler en son nom. Et donc, du coup, il faut se poser la question, si je suis réanimée et que je suis toujours dans le coma, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux rester comme ça? Ou est-ce que je veux qu'on me débranche? Et ça, c'est ça qu'on écrit dans les directives anticipées. Et donc, la personne de confiance, elle doit porter ça. C'est notre voix, en fait, quand on ne peut plus s'exprimer. Donc, c'est important d'en avoir une, d'être d'accord avec, de lui en avoir parlé, d'en avoir éventuellement plusieurs, parce qu'elle n'est peut-être pas forcément joignable au moment où on en a besoin. Ça peut être quelqu'un de votre famille ou pas. Ça peut être une association, une antenne Ultime Liberté, Finistère. On peut être la personne de confiance. On se retrouve des fois avec des gens qui sont vraiment tout seuls, qu'ont personne. Pas de famille, pas d'amis, rien, parce qu'ils ont déménagé, enfin X raisons, quoi. Et donc, comment avoir une personne de confiance? Une association, ça peut être... il suffit de nous confier les directives anticipées, de bien nous expliquer, et on représentera la personne.
Donc, ça fait aussi partie un petit peu des objectifs qu'on se fixe dans notre association, de promouvoir les directives anticipées, d'en parler, d'en faire la publicité, pour expliquer aux gens que c'est quand même aussi un moyen de faire valoir ses vœux et ses droits.
Statistiquement parlant, ce qu'on voit, c'est que, ce qui est ressorti, c'est dans la Convention citoyenne, c'est à peu près 15% des Français qui ont fait leur directive anticipée. Donc c'est relativement peu. Et on se propose en 2024, nous, d'essayer de monter des ateliers comme ça. Donc si ça intéresse des gens qui nous écouteraient, pourquoi pas nous contacter, ce serait gratuit, hein, bénévolement. L'idée, c'est vraiment de faire de la promotion des directives anticipées, là, pour le coup. Parce que ça a une vraie utilité quand on ne peut plus s'exprimer. Alors, il faut noter que depuis 2016, elle s'impose au corps médical. Donc, ils doivent le lire. Mais elles ne sont pas opposables à lui. C'est-à-dire que si on veut quelque chose, le médecin peut décider, in fine, non. Mais il doit rechercher l'accord, quand même, de toutes les parties... de la famille, de la personne de confiance et du fameux conseil ad hoc qui réunissent à ce moment-là. Mais in fine, c'est le médecin qui décide.
Bon, alors en France, il n'y a pas le droit à l'aide active à mourir, mais l'aide passive, finalement, c'est encore dans les zones floues dans lesquelles nos opposants se rétractent, parce que la loi... fait la différence entre traitement et soins. Et il faut savoir, par exemple, que pendant la sédation profonde et continue, on stoppe l'alimentation parentale, par voie veineuse, et l'hydratation. Ce qui fait que ça ne doit pas être très confortable quand même si les gens sont ailleurs. Et je voudrais aussi souligner cette question de l'autonomie, encore une fois, l'autonomie du patient, parce que quand on est avec des anxiolytiques, et puis la benzodiazépine, et puis la kétamine, on n'a pas complètement son discernement, je pense. Et c'est vrai que ceux qui sont en soins palliatifs, en fin de parcours, ils sont absolument bombardés par ça.
Et l'aide passive, elle est encadrée par une loi, en fait, c'est ça, non? C'était la loi...
C'était la loi Leonetti, c'était en 2006. Oui, 2005.
Je vais au nom du nom des vents, j'y vais au son de l'avant. J'en viens manger, dormir, c'est des matins rater, partir. Je viens, je tends. Au mieux, au mien, au pire, autant. J'y vais, j'en viens manger, dormir, c'est des matins rater, partir. Ma route est la même. Je n'ai pas le temps.
Concrètement, dans les adhérents qui veulent s'investir un petit peu, c'est au sein d'une antenne. Donc il y a le côté animation classique d'une antenne associative où on réunit les adhérents, où on fait des réunions publiques. On va essayer d'aller voir si la loi sort nos représentants que ce soit les députés ou les sénateurs, voilà, on va essayer de bouger un petit peu, faire un peu de lobbying politique, quoi. Voilà, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a ceux qui veulent s'engager un peu plus, qui font de l'accompagnement. Voilà. Et ça, c'est cette notion de solidarité au niveau de l'association, c'est très fort, quoi. C'est notre plus, si j'ose dire, d'associatif, c'est que nous, on va au-devant de nos adhérents qui le demandent. Uniquement s'ils le demandent. Voilà. Et donc, et on fait un bout de chemin avec eux, et à chaque fois, on va les voir. Voilà. Ce que je voulais préciser aussi, c'est qu'on ne fait aucune incitation au suicide, voilà, et qu'on est apolitique, à religieux, à tout ce que vous voulez. On est totalement neutre vis-à-vis de toute chose qui serait autre chose que l'aide active à mourir.
C'était au détour d'une rencontre avec l'association Ultime Liberté. Merci à Eric, Daniel, Bruno et merci à André, à qui je laisse le mot de la fin.
Le petit mot de fin qu'on pourrait peut-être donner à la fin d'un entretien comme celui-ci, c'est que la mort n'est pas triste pour nous, en tout cas. Nous, on aborde ça de façon plutôt même joyeuse et on en parle librement et sans morbidité et sans en avoir peur. On est plutôt des gens qui aimons rire, on est plutôt des gens qui aimons la vie. Voilà. Et c'est parce qu'on aime la vie, justement, qu'on souhaite vraiment une belle mort, une bonne mort. On souhaite une belle et bonne vie, donc on souhaite aussi une belle et bonne mort. Voilà, en toute dignité, ça va de pair.
Au mieux, au pire temps, j'y vais, j'en viens manger.